Bonsoir et bienvenue. On a une émission bien remplie pour parler de la journée de visibilité lesbienne 2023 avec Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec, organiste communautaire qui organise la JVL. Julie Vaillancourt sera avec nous pour nous parler du livre d'archives lesbiennes qui sera disponible lors de la JVL le 22 avril prochain et les porte-paroles de cette année, Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle. On s'en va en musique avec Sylvie Paquette et on revient avec Tara Chanadi.
Sentiment qui m'envahit. Pour tous les bonheurs et tous les chagrins, je vois des lignes dans mes mains. Il y a de l'eau cachée dans tous les desserts. Après la pluie, c'est le soleil qu'on espère. Et si rien n'a changé tout autour de moi, c'est quand je doute.
Nous sommes avec la nouvelle directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec, Tara Chanady. Bonsoir, Tara.
Bonjour.
C'est un plaisir de faire une première entrevue avec toi.
Ben oui, moi aussi, j'avais hâte.
Oui, tu es en poste depuis janvier. Tu as un bagage énorme, doctorat en communication à l'Université de Montréal, spécialisé dans les représentations médiatiques des femmes lesbiennes, bisexuelles et queer, incluant la télévision québécoise. Et tu as donné de nombreuses conférences sur tes recherches. Et tu es également chargée de cours au baccalauréat en communication à l'Université de Montréal depuis 2015. Ton approche vise à examiner de manière critique les discours et les normes concernant le genre et la sexualité. Quelles sont tes aspirations pour le RLQ?
Bien, plusieurs aspirations. D'abord, j'étais tellement honorée de pouvoir prendre la place de Julie, qu'on m'ait confié ça, que Julie m'ait permis de rentrer là-dedans aussi. Puis l'organisme est tellement génial avec des belles personnes. Il y a tellement des belles choses qui ont été faites. Pour vrai, c'était vraiment un grand honneur et un grand plaisir de rentrer comme directrice générale du RLQ. Moi, ça faisait longtemps que j'étais dans le milieu plus c'est ça de la recherche puis de l'enseignement. Puis un des aspects que j'aimerais vraiment creuser, c'est développer davantage les connaissances qu'on a sur le vécu des femmes, la diversité sexuelle. Il y a beaucoup de choses qu'on sait entre nous, mais il n'y a pas beaucoup de recherches scientifiques qui vraiment qui se centrent sur nos besoins, sur nos enjeux. Fait que je trouverais ça intéressant de pousser un temps de recherche, de visibiliser notre organisme, de vraiment prendre une place plus grande parce qu'il n'y a presque pas d'organisme même au Canada qui s'intéresse au temps de la diversité sexuelle, c'est d'un point de vue à la fois de la politique, de la recherche. Donc, je pense que c'est, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités de grandir, de bâtir sur les merveilleuses choses qui ont déjà été faites. Donc, vraiment, là, c'est un moment d'ébullition, c'est un moment de développement de plein de projets, puis c'est vraiment, c'est super excitant.
Tu avais quand même des grosses chaussures à remplacer,
oui, c'est ça,
puis
c'est ça.
Je pense que tu es vraiment la bonne personne pour le faire.
Julie a tellement réussi à faire grandir l'organisme, c'est fou comme ce qu'elle a réussi à faire en 6 ans, comment elle a réussi à amener l'organisme, c'est comme à grandir d'une façon vraiment incroyable. Donc, tu sais, on voit qu'on est sur une lancée qui continue, là, puis ça continue, puis là, la journée visibilité de lesbienne cette année, on attend encore plus de personnes que l'année passée. Donc, on voit vraiment qu'il y a un momentum qui continue.
Oui, puis cette année, la journée de visibilité lesbienne, elle va se dérouler le 22 avril dès 14h. Puis ce sera au Bain Mathieu cette fois-ci, sous le thème « Nommé pour exister ». Qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème-là?
Mais ça, c'est pas moi, c'était la campagne, c'était l'idée de Julie. Puis donc, c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'importance des représentations, donc ça résonnait vraiment avec moi. C'est l'importance de nommer nos identités, l'importance de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit. C'est surtout, on sait que le terme lesbienne a souvent mauvaise réputation, mauvaise presse. Donc, c'est d'essayer de, aussi de le mettre de l'avant, d'enlever certains stigmas, de déconstruire les stigmas puis les préjugés qu'on a envers ces termes-là. Puis l'importance de pouvoir avoir notre place, que ce soit dans la sphère médiatique, que ce soit dans la sphère publique, que ce soit en termes d'espace. Donc, je trouve que c'est une campagne très évocatrice parce qu'on parle du poids des mots, tu sais, du poids de la visibilité, du poids de la représentation. Donc, c'est vraiment puissant, je trouve, comme type de campagne.
C'est un peu une suite de l'an passé qui était...
Invisibiliser, c'est discriminer.
Exactement. Invisibiliser, c'est discriminer. Qu'est-ce que vous nous avez préparé comme programmation de la journée de visibilité lesbienne cette année?
Oh my God, on a hâte. Ça arrive vite, là. C'était dur parce qu'il y avait tellement de choses qu'on voulait aborder. Mais là, on a, premièrement, donc, une des grandes réussites de RLQ dans les dernières années, c'est de produire le livre Archives lesbiennes. Donc, c'est un travail monumental qui a été fait par le RLQ. Donc, c'est un ouvrage qui a été rédigé par Julie Vaillancourt, puis qui a été supervisé scientifiquement par Dominique Bourque et par Lynn Chamberlain, donc tous des grands noms des personnes qui ont longtemps contribué à la diffusion des connaissances lesbiennes. Puis c'est le premier ouvrage, en fait, qui recense vraiment les archives, l'histoire lesbienne, pas seulement au Québec, mais à travers le monde. Donc, c'est le fruit de recherches vraiment phénoménales. Donc, c'est un ouvrage qui fait plusieurs centaines de pages puis qui recense les différentes représentations de Sappho en Grèce antique sur l'île de Lesbos, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au développement les plus récents, en passant par les luttes, en passant par une inclusion de plein de choses qui, des fois, sont dans nos angles morts, comme les enjeux autochtones. Donc, on célèbre la sortie de cet ouvrage-là, en fait, à la journée de visibilité lesbienne. Donc, c'est possible de se le procurer. On n'a pas beaucoup de pression pour le moment. On a 200 copies. On sait que ça va partir assez vite lors de cette journée-là. Et le premier panel de la journée va parler du livre Archives lesbiennes. Donc, on va pouvoir entendre Julie, Dominique et Lynn qui vont nous partager le processus. C'est l'importance de préserver la mémoire lesbienne. Et dans un deuxième temps, on a aussi un panel sur l'intersectionnalité. Donc, on est super contente des panélistes qui se joignent à nous. Donc, on va parler notamment des enjeux de capacitisme, on va parler des enjeux queer autochtones, on va parler des enjeux vécus par les femmes arabes queer. Donc, vraiment une grande, grande diversité d'enjeux pour essayer d'aller comprendre un peu la complexité des croisements identitaires. Puis, dans un troisième temps, on a un panel qui s'appelle Modèle de changement. Donc, des militantes importantes. C'est comme Martine Roy, on la connaît bien dans la communauté. Oui. Des différentes personnes qui ont créé des espaces, qui ont créé des initiatives pour les femmes de la diversité sexuelle. Donc, notamment par rapport au sport, par rapport à la santé mentale et à la neurodivergence. On a aussi Janie Barré, qui s'identifie comme lesbienne très clairement, puis qui fait des marathons à travers le monde, malgré le fait qu'elle est en chaise roulante. Elle est vraiment super cool. Donc, eux, ils vont parler dans notre troisième panel. Okay. Ça, c'est juste l'après-midi, là. Fait que, c'est ça. Après, on continue. On a nos deux merveilleuses role models de cette année, donc qui vont nous faire des performances en drague. Donc, le cover du FUG cette année, c'était la première fois qu'il y avait un couple de femmes, en fait. Un vrai couple de femmes sur le cover du FUG. Donc, oui. On était vraiment super contentes. Donc, Geneviève et Mélodie vont être les porte-parole de cette journée-là. Et il va y avoir d'autres performances musicales durant la soirée. Ça va se terminer par un gros dance party, une collaboration de plusieurs organismes lesbiens, lesbiqueers de Montréal qui se sont mis ensemble pour nous faire danser pour le reste de la soirée.
Ça, c'est génial.
Ça va être assez beau.
Oui, la JVL, c'est aussi l'occasion de remettre des prix à des femmes LGBTQ+, étant illustrées par
le...
C'est ça, donc chaque année, vous remettez un prix hommage, un prix militantisme et un prix visibilité. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qui vous avez décidé d'honorer cette année?
Oui, bien, c'est ça. On a honoré une activiste autochtone qui a fait vraiment énormément de choses pour la communauté. Donc, Sky Deer, qui va recevoir un prix. On va aussi féliciter Martine Roy et Michelle Douglas, qui ont mené des batailles légales vraiment super importantes, qui ont marqué l'histoire, pas seulement québécoise, mais canadienne. Et Monique Audet, une grande personne qui a fait beaucoup pour nos communautés au Québec. Donc, ça va être l'occasion de célébrer ces quatre merveilleuses femmes lors de la remise de prix.
Et afin de célébrer visiblement la JVL, le Stade olympique prendra les couleurs du drapeau lesbien en s'éliminant. Est-ce que ça a été difficile d'obtenir ce privilège-là?
Non, pas tant. Ils étaient très ouverts. On était surpris. Donc, c'est Cynthia Ferry qui est adjointe à la direction qu'elle a juste fait la demande, puis ils ont juste accepté. Donc, on est contents. C'est sûr qu'on voit que même avec Fierté Montréal, cette année, il y a plus d'ouverture. Cette année, en tout cas, on apprend beaucoup des erreurs du passé. On a l'impression qu'il y a vraiment un mouvement d'inclusion de plus en plus. Donc, on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Puis, c'est vraiment une belle nouvelle pour les Lumières.
Donc, la JVS se tiendra le 22 avril dès 14h au Bain-Mathieu. C'est au 2915 rue Ontario-Est. Et pour plus d'informations sur la journée de visibilité lesbienne et la campagne nommée « C'est existé », on peut visiter le site web du Réseau des lesbiennes du Québec, RLQ-QLN.ca et la page de la JVL, www.visibilitélesbienne.ca. Merci beaucoup, Tara Chanadi, d'avoir été avec nous et on aura l'occasion de se reparler plus souvent.
Oui, j'ai bien hâte. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Bye.
On poursuit en musique avec l'artiste Atikamek Laura Nikwe qui a remporté deux prix au Gala de la Disque 2022, soit Album de l'année, Langue autochtone et Artiste autochtone de l'année.
Miigwech, eki be miriak Be matasi win ay Mojik, eki be kishtermiak Kinwesh ay Mojik, eki be shwermiak Kokum ay Mojik gomyo danan Nikshte chige winan Kibamada mermit nan Ninan kyo simuk Mammo gakshter mitsunan Ninan kyo simuk
Kino wesh, ek i befon deyin Kekir ey Kino wesh, ek i befon deyin Ninan ey Moshak, kam kwer nidnan Kokom ey Moshak, kasai hidnan Ninan ey Kibamada ner midnan Ninan kyo simak Mamo ga sher midzonan Ninan kyo simak Tabwe ipe wide tabusin Kokom ea ey Tabwe ipe msquizin Kokom ey Kinoesh ek ipe madusin Kekin ea ey Kokom Ashe,
nous sommes avec Julie Vaillancourt, auteure-compositrice-interprète, co-réalisatrice du documentaire Ala et professeure de cinéma au Cégep. Vous pouvez aussi lire ses chroniques mensuelles dans le magazine Fugue. Elle vient nous parler des tomes 1 et 2 du livre d'archives lesbiennes produit par le Réseau des lesbiennes du Québec pour lequel elle a été mandatée de l'écrire étant travailleuse pour le RLQ à ce moment-là. Bonsoir, Julie Vaillancourt.
Bonsoir Nathalie, merci pour cette introduction-là faste.
Quelle tâche quand même tu as eu d'écrire cette anthologie totalisant plus de 1000 pages. Il faut dire qu'en juin dernier avait lieu le lancement du tome 1 du livre d'archives lesbiennes avec seulement une édition limitée de la première partie de l'ouvrage et c'est lors de la journée de visibilité lesbienne qui se tiendra le 22 avril prochain que nous aurons l'occasion de mettre enfin la main sur l'ensemble de l'œuvre, soit les tomes 1 et 2. Comment as-tu procédé pour mettre en place l'écriture de cet ouvrage qui englobe l'histoire des femmes LGBTQ+, de la Grèce antique à aujourd'hui?
Bon, c'est sûr que c'était toute une aventure là, de mettre en place cet ouvrage-là. Comme tu l'as dit, ça part d'une idée de Julie-Antoine, qui était à l'époque directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Donc, elle avait cette idée-là, finalement, de mettre en scène l'histoire lesbienne, l'histoire des femmes LGBTQ+, qui a été trop longtemps occultée, si on veut, invisibilisée là, dans l'histoire en général. Donc, c'était cette idée-là de se réapproprier, finalement, nos initiatives, les femmes qui sont importantes, puis de les mettre de l'avant dans un bouquin. Donc, ça a commencé comme ça, cette histoire-là. Et je me souviens, dans les premières réunions, donc on avait eu une réunion avec Julie, Antoine, justement, avec Florence Gagnon et moi, puis on se disait, bon, de quoi on pourrait parler. Puis c'est sûr qu'au début, c'était pas aussi ambitieux, c'était pas aussi exhaustif. C'est-à-dire, on partait plus des années 60-70, parce que, bon, moi, je me disais, c'est important de partir de là, parce que, bon, quand on parle de mouvement LGBTQ+, c'est là, si on veut, entre guillemets, que prend la naissance des mouvements LGBT, donc avec son noir, avec les premières manifestations LGBT dans l'espace public. Mais plus on parlait de ça, puis j'ai commencé la rédaction et tout, puis plus on en parlait, mais plus je me disais, mais non, tu sais, par exemple, je me disais, on peut pas parler de l'histoire des femmes. femmes lesbiennes et femmes LGBT sans parler de l'histoire des femmes, sans parler du mouvement des femmes. Et là, à chaque fois, je reculais. Je me disais, mais on peut pas parler du mouvement des femmes sans parler, par exemple, des premières femmes qui ont intégré le marché du travail dans les années de Deuxième Guerre mondiale. Parce que, bon, c'est là qu'il y a eu un certain empowerment, si on veut. Donc, les hommes étaient partis au combat, combattre. Donc, on avait besoin de relève dans les usines d'armement, par exemple. Et donc, on embauchait des femmes. Et ça, ça a généré, par exemple, bon, des icônes fortes du mouvement féministe. Par exemple, Rosie la Riveteuse, tu sais, la femme, là, on s'en souvient, là, avec son bras de fer.
Oui.
Et tu vois-tu de quoi je parle?
We can do it. We can do it.
We can do it. C'est ça. C'est puis ça a été repris, ces icônes-là, par même le mouvement, certains mouvements lesbiens jusqu'à un certain point, c'est bon, certains mouvements des femmes. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. À chaque fois que je parlais de quelque chose, je retournais toujours en arrière. Je me disais, oui, mais on peut pas parler de ça. Fait que finalement, je me disais, oui, mais on peut pas, finalement, on peut pas évincer sa faute. Ça fout de la question. Et donc là, on est retourné à la Grèce antique. Donc finalement, on a commencé au début. Finalement, ça a donné ces deux tomes qui totalisent 1000 pages. Mais au début, c'était pas ça l'idée. Mais tu sais, c'était vraiment difficile d'écrire l'histoire puis de dire, ouais, mais là, qui qu'on enlève de cette histoire-là? T'sais? Fait qu'à chaque fois, on en rajoutait. J'en rajoutais. Fait que voilà. Fait que c'est pour ça que ça a donné quelque chose quand même de très, très... De très, très ambitieux, à ce niveau-là.
Et vous étiez combien à travailler sur le livre et ça a pris combien de temps à écrire?
Ben c'est sûr que l'écriture, c'est moi qui l'ai fait, là, de A à Z, sauf quelques collaborations thématiques. Donc, il y a eu des collaborations pour des sections thématiques dans le deuxième tome, en fait. Fait que dans le deuxième tome, comme collaboration thématique, ben, on a Nicole Lasselle sur la revue 13. Claudine Malcas, qui nous a parlé de son implication à elle. Donc, à l'époque, elle travaillait au FUG, elle a travaillé à la radio. Donc, c'était quoi être lesbienne dans ces années-là? Donc, ces années, on parle des années là, 90 surtout. On a Julie Podemore qui nous a parlé donc du mouvement queer, des bars lesbiens aussi. Puis on a Cassandra Rivet qui nous a parlé d'une auteure qu'elle adore, là, qui est son idole. Et là, évidemment, le nom m'échappe parce qu'on est à la radio. Et c'est Jeanne d'Arc Jutras. Donc, elle nous a parlé de Jeanne d'Arc Jutras. Puis on a aussi ben, Feu Joanne Coulombe là, qui avait préparé, avant son décès, là, elle avait préparé... elle avait révisé un article qu'elle avait déjà publié sur Amazon d'hier, la semaine d'aujourd'hui. Fait que ça, c'est des collaborations. Il y a aussi Dominique Bourque qui a collaboré sur l'âge d'or du lesbianisme dans les années 90. Ariane Brunet aussi sur son expérience. Lynn Chamberlain aussi là, qui a republié un article sur Diane Cassidy. Fait que ça, c'est des collaborations écrites sur l'ouvrage. Donc, l'idée, en fait, c'était que, je me souviens, j'avais commencé le tome 1 et tout. Puis, on voulait diversifier les voix. Donc, tu sais, au-delà du fait que ce soit moi qui écrive tout, l'idée, c'était de diversifier les prises de parole dans le livre. Fait que je m'étais dit aussi comment le faire, donc donner certaines sections thématiques à des gens, ce qui s'est surtout passé dans le deuxième tome aussi, parce que ça a pris un certain temps pour les contacter et tout. Mais c'était aussi l'idée de faire des entrevues. Donc, faire des entrevues, c'était une façon aussi de donner la parole directement à des femmes impliquées dans la communauté qui ont créé des initiatives importantes, puis aussi de les mettre en valeur nécessairement, puis de varier les sources du récit là, finalement. Fait que puis aussi de pas s'approprier l'histoire, parce que je pense par exemple au tome 1, bon, quand on est retourné, on s'est dit je vais retourner, mettons, on va parler de la colonisation, tu sais. Mais parler de la colonisation de mon point de vue, de femmes blanches en évinçant les voix autochtones, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, on est allé chercher donc des voix autochtones. Et donc, Mona Bello, Sky Deer puis Mani Chakabi là, ont collaboré, ont fait des entrevues originales pour le livre. Donc, c'est une bonne façon de leur donner la parole. Puis, c'était super intéressant aussi. Donc, il y a une belle anecdote avec Mani Chakabi. Moi, c'était... il y a plusieurs entrevues dans le livre, mais Mani Chakabi, pour moi, c'était un coup de cœur, là, vraiment. Déjà, elle a écrit... déjà, j'ai lu son livre là, avant de faire l'entrevue. Son livre qui s'intitule... qui porte finalement sur sa vie de femme lesbienne, objet, écrit, bispirituelle. Fait que c'est tout son parcours, c'est toute sa vie. Donc, c'est un livre qui est vraiment intéressant, déjà, que je recommande, qui a été publié là, aux éditions du Remus Ménage, sous forme d'autobiographie. Et donc, l'histoire de ce livre-là, c'est drôle parce que quand on était en processus pour l'entrevue, je me suis dit, c'est super drôle parce que j'avais rencontré, finalement, une personne qui était très proche d'elle lors de la formation Empowerment des femmes LGBT que je suis allée suivre pour le RLQ à Windsor. Puis, j'avais rencontré cette fille-là, puis elle m'avait parlé, elle m'avait dit, écoute, moi, j'ai mon mentor qui sort un livre. Puis il va être disponible à Montréal, blablabla. Fait que, wow. Et c'est drôle comment c'est le destin, genre. peut-être un an, deux ans plus tard, je me souviens, on en parle au bureau, ma collègue Cynthia me parle du livre, je dis, ben oui, j'ai connu, je vais la contacter.
Puis là, tu sais, parce qu'elle était difficile à contacter quand même, donc c'est quelqu'un qui vit de façon quand même assez isolée, qui n'était pas trop sur les réseaux Internet. Donc, le fait d'avoir ce contact-là, que j'avais connu à la formation, ben ça a tout déboulé, puis ça l'a créé puis un lien de confiance pour qu'on puisse faire une entrevue qui était intéressante. Parce que, bon, son parcours est vraiment intéressant, puis son parcours, c'est vraiment quelque chose. Là. Pour ça, je vous dis, ça vaut vraiment la peine de... De toute façon, après avoir lu les 1000 pages des deux tomes, ça va être facile. Donc, je vous conseille le livre de Manny, chaque avis sur sa vie. Donc, c'est vraiment un livre qui m'a... En tout cas, moi, ça m'a marqué. Puis, c'était vraiment intéressant de l'avoir en entrevue. Donc, pour qu'elle nous partage aussi tout ce qu'elle a vécu au courant de sa vie, là, comme femme bispirituelle notamment.
Puis toi, tu as l'habitude de sortir de l'ombre les femmes LGBTQ+, puis c'est important pour toi de mettre de l'avant les femmes de la communauté. C'est ce que tu fais depuis 15 ans avec ta chronique dans le magazine Fugue. Tu as interviewé énormément de femmes LGBTQ+. Est-ce que tu considères que ça t'a aidé à écrire ce livre-là?
Tout à fait. Donc, tout à fait. Tu as mis le doigt sur la chose. En fait ça, je dirais que ça m'a plus qu'aidé dans le sens où... Ben, le processus, c'est oui, ce processus-là, c'est comme tu dis, de prendre des initiatives de femmes LGBTQ+ à chaque mois puis d'écrire sur elles, ben, c'est un peu ce que j'ai fait finalement pour les deux tomes jusqu'à un certain point.
Ouais.
C'est aussi, c'est tout un exercice là, de le faire. Toi, tu le sais, toi aussi, tu fais de la radio puis à chaque mois, c'est la même chose que tu fais. C'est tout un exercice d'aller chercher ces personnes-là, des amener à ouvrir leur voix, à se faire confiance et tout. En fait, il y a beaucoup de ça dans le livre Archives lesbiennes. Donc, avec la permission aussi de Yves Lafontaine au Fugue, les éditions Hommes, en fait, ils nous ont cédé les droits jusqu'à un certain point. Donc, ils nous ont donné la possibilité de republier certaines entrevues que moi, j'ai faites au courant des deux dernières années. Puis, c'est pas par paresse, c'est parce qu'on n'aurait jamais pu sortir un ouvrage là, de 1000 pages en un an. Là, ça permettait d'alléger le processus aussi. Encore une fois, d'offrir une diversité de voix. Puis ben, de toute façon, comme c'est moi qui écris l'ouvrage puis que c'est une reproduction de mes entrevues à moi, ben il y a un certain fil conducteur là, tu sais, au niveau de l'écriture aussi là. T'sais, on n'a pas un changement de voix qui est comme oh mon Dieu, ça détonne. T'sais. Fait que c'était une façon aussi d'alléger le processus puis d'aller remettre en valeur aussi non seulement ces femmes-là, mais aussi l'archive, parce que finalement, moi qui ai écrit pour le Fugue, ben le Fugue devient aussi une archive. Donc, ça devient une archive lesbienne jusqu'à un certain point. Donc, ça reste du contenu lesbien, ça reste du contenu qui est archivé à Grande Bibliothèque, ça reste une revue papier. Donc, cette idée-là de remettre en scène certaines entrevues qui ont déjà été publiées, ben ça faisait partie de l'idée de l'archive lesbienne pour moi. C'était aussi ce concept-là. Puis on en avait parlé. C'est la même chose avec LSTW. Il y a eu une entrevue que j'avais faite justement avec Sarah Fodé. Alors, il me semble que c'était pour le magazine 3, là, si je ne m'abuse, puis on l'a republié, tu sais. Même chose, Céline Chamberlain a republié l'entrevue qu'elle avait faite avec Denise Cassidy dans 13, tu sais. On a republié aussi des choses qui ont été réécrites dans Amazon de bière lesbienne d'aujourd'hui, tu sais. Fait que ça fait toute partie de l'idée de remettre de l'avant l'archive, tu sais. Fait que c'est pas juste des photos, bien sûr, il y en a, mais c'est aussi l'article, tu sais, le contenu archivistique aussi, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'idée aussi, fait que ça. Ouais, ça. Puis je trouvais que ça allait bien avec aussi, comme tu dis, le rôle que j'ai comme journaliste depuis toutes ces années-là. Là. Ça permettait de faire une corrélation forme-propos, comme on dit.
Oui, absolument. Puis, tantôt, tu parlais de Cassandra Rivet, qui est une travailleuse au Réseau des lesbiennes du Québec, parce qu'il a fallu aussi obtenir des droits pour publier les photos. Ça a été quand même laborieux comme travail à ce niveau-là, non?
Clairement, oui, oui, quand même, c'est ça. Donc, Cassandra, c'était mon bras droit le long de cette aventure-là avec Julie. Mais je dirais que j'ai deux bras droits, parce qu'il n'y a pas de bras gauche, ça fait un peu étrange. Mais Cassandra, oui, ça a vraiment été... En fait, la façon dont on procédait, c'est qu'au début, tu sais, j'écrivais, par exemple, des textes et tout, puis j'avais des idées de photos, je les mettais. Cassandra, ben là, elle intervenait en disant, ben, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, ou tu rêves en couleur, on va jamais obtenir les droits, etc. Donc, c'est un peu ça. Fait qu'elle aussi, évidemment, nécessairement par la bande, elle a aussi fait de la recherche photo, puis de la recherche de droits aussi. Donc, c'était quand même, là, je dirais, laborieux, tu sais, c'est un travail de longue haleine, là, puis il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de photos aussi dans ce livre-là. Puis il y a eu beaucoup de collaborations qu'on a faites avec diverses archives à travers le monde pour trouver ces photos-là. Donc, par exemple, je pense à Elsa Gidlo. Donc, on parle de Elsa Gidlo, ben, qui est connue hein, dans les années 30-40 de la scène de la diversité de l'époque. Tu sais, donc, elle s'affichait beaucoup. Puis on voulait des photos d'elle. Puis même si c'est une Montréalaise, ben le fond, il appartient à un fond à San Francisco. Fait qu'il a fallu contacter les archives là-bas à San Francisco. fiscaux pour obtenir les droits, pour payer des droits aussi. Pour ce fonds-là, c'était la même chose, par exemple, quand on a voulu parler de la menace lavande. Donc, on a contacté aussi le New York Public Library pour obtenir des photos. Même chose pour Stormy Dolarey. On a contacté une photographe du New York Times, qu'on aimait beaucoup sa photo. La Grèce aussi, donc on voulait des photos de la Grèce un peu plus contemporaine. Donc, on a contacté une photographe grecque. Donc, c'était tout ça, puis de faire ces contacts-là. Ouais, ça, c'est le travail de l'ombre aussi. Là, la photo est d'elle, mais des fois, ça a demandé beaucoup. Puis, il y a même des photos où on a dû faire des croix à un moment donné parce que c'était trop cher payé pour un organisme communautaire aussi d'effrayer les frais. Bon, c'est un ouvrage là, qui est subventionné quand même, mais une photo à 500 $, ça devient cher pour l'ensemble de l'ouvrage. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Des fois, c'est des choix déchirants. Mm-hmm. Puis, ben, on a aussi eu la chance d'avoir des photos originales de femmes de la communauté qui ont donné leurs photos. Par exemple, je pense à... Il y en a plusieurs, mais je pense à Suzanne Gérard.
Oui.
La mère qui est connue là, pour sa fameuse photo de Babyface, mais nous a donné là, d'autres photos originales de sa collection. Donc, puis en parlant avec elle, justement, elle me disait que elle trouvait ça important de les sortir. Puis en voyant justement les femmes d'une autre génération vieillir, elle se disait, mais mon Dieu, il ne faut pas que ces femmes-là, justement, partent avec leurs archives, s'éteignent avec leurs archives. C'est important de léguer puis de transmettre à la nouvelle génération. Fait que c'était aussi dans cette optique-là qu'elle disait de l'avoir fait. Donc, on est vraiment chanceuse. Elle n'est pas la seule. Là. Il y a quand même toute une liste de remerciements là, de gens qui ont prêté leurs photos. Mais c'est sûr que Suzanne Gérard, là, c'en est une. Marie Boudreau aussi, je pense. Donc, c'était important là, comme collaboration aussi.
Comme tu disais tantôt, tout ça, ça s'est fait sous la supervision de l'ancienne directrice générale du RLQ, Julie Antoine, qui s'est aussi occupée des demandes de subventions afin de trouver les sous pour financer cet ouvrage. Est-ce que tu veux nous dire un mot à ce sujet? Est-ce que ça a été difficile?
Ah, clairement. Ben, c'est sûr que quand on parle, Julie, c'est son idée, puis c'est aussi elle qui a supervisé tout le projet. Fait que, ça prend toujours quelqu'un, quand tu publies un livre, qui joue le rôle justement de l'éditeur. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que les mains, les cœurs, les têtes s'alignent de tout ce beau monde-là pour que finalement, du début des premiers mots sur une page jusqu'à la fin de l'impression, tout s'aligne. Et que c'est vraiment Julie qui a fait ça. Là. Fait que c'est un travail énorme aussi. Puis c'est aussi la qualité d'une bonne leader de faire confiance aussi aux gens qui concrétise son idée. J'étais chanceuse parce que Julie, elle m'a quand même laissé beaucoup de liberté. Ça m'a fait confiance. Mm-hmm. Quand ça fait une semaine que tu écris chez toi ou au bureau et qu'elle vient pas toujours en arrière de mon épaule en disant t'es rendu où, t'as écrit combien de chapitres, combien de paragraphes. C'était pas ça, c'était pas du tout ça l'atmosphère. C'était une très belle atmosphère. Puis j'ai eu beaucoup de liberté créatrice pour l'écrire, cet ouvrage-là. Puis je pense que ça transparaît dans les fragments d'histoire qu'on raconte. Fait que tout a commencé évidemment par une demande de subvention aussi. Et c'est Julie qui s'est tapée ces demandes de subvention-là, on s'entend. C'est sûr qu'il y a des subventions qui sont annexées à la mission du RLQ. Donc, je pense par exemple au secrétariat à l'action communautaire et autonome et aux initiatives sociales, puis à Femmes et égalité des genres Canada. Donc ça, c'est des organismes qui subventionnent déjà le RLQ là, à sa mission. Puis évidemment, on a le fonds purge LGBT qui a été justement là, un des bailleurs de fonds qui a porté cet ouvrage-là, donc extrêmement important. Donc un fonds finalement qui est administré par les survivants là, de la purge LGBT. Donc finalement, ça l'a fait là, les manchettes il y a quelques années là, avec les excuses du gouvernement Trudeau à l'égard de ces gens-là justement qui avaient été dans l'armée ou dans des fonctions gouvernementales et qui avaient été soit remerciés en raison de leur orientation sexuelle et victimes d'homophobie, etc. Donc, ce fonds-là, évidemment, sert à des initiatives, comme le livre, mais il y en a énormément d'autres auxquelles le fonds s'affaire. Notamment, il y a un monument aussi là, qui va être érigé bientôt. Donc, dans le livre aussi, on parle donc du fonds purge LGBT. On parle de certaines initiatives, notamment le monument. On parle aussi de certaines femmes derrière la purge, donc Martine Roy et Michel Douglas, donc qui ont été quand même des figures importantes dans ce livre-là aussi, donc qui ont mis de l'avant, j'ose croire, auprès de leurs propres subventionneurs cette idée-là. Donc c'est des gens qui sont importants à ce niveau-là. Donc, le fonds purge LGBT nous a vraiment aussi permis là, d'éditer cet ouvrage-là jusqu'à un certain point. C'est sûr que quand on parle d'édition d'un ouvrage comme ça, ben on a évidemment, on a fait affaire avec une boîte aussi qui fait la conception graphique, le design graphique. Donc, c'était le studio Harrison Fund, donc avec Amélie Madrid notamment, là, à la production. Donc, c'était quand même un gros travail là, de va-et-vient aussi avec Julie, qui s'en est occupée aussi beaucoup au niveau du graphisme, au niveau des images, là, parce que Parce que quand vous allez avoir la chance de voir l'ouvrage, vous allez voir que c'est un bel ouvrage aussi, graphique. Ça se veut un beau livre aussi.
Absolument. Ouais. Et pour en savoir plus, lors de la JVL, le 22 avril prochain, tu seras sur un panel avec nul autre que Dominique Bourque et Lynn Chamberlain, qui constituaient le comité évaluateur de l'ouvrage. Comment ça a été de travailler avec ces deux personnes chevronnées?
Tout à fait. Ben écoute, pour moi, c'était un vrai plaisir. Là. C'est sûr que ces deux personnes, que ça fait quand même plusieurs années que j'ai la chance de côtoyer. Mm-hmm. En fait, c'est sûr, quand on a commencé l'ouvrage, j'avais dit à Julie, ce serait bien aussi de faire, ben justement, comme un ouvrage qui est publié par une maison d'édition avec un éditeur. On a souvent un comité évaluateur. Quand c'est des ouvrages qui sont évalués par les pairs, là, on a souvent un comité évaluateur. Puis ben, souvent, le comité évaluateur, en général, est anonyme. Ça doit être écrit le livre. Tu reçois des commentaires de 2-3 personnes, souvent, puis ils vont faire des commentaires, ils vont faire des recommandations avant publication. Puis souvent, tu vas revenir sur ta publication, tu vas changer des choses. Tu vas vérifier des faits, etc. Donc, j'avais déjà dit, ça serait le fun qu'on ait ce comité-là. Et donc, c'est ça, on a pensé à Dominique puis Lynn, nécessairement. Donc, je les ai contactés. Ils ont accepté aussi avec toute leur gentillesse et leur temps. Donc, puis souvent, c'était pas facile parce que souvent, je leur disais, mettons, OK, je vous envoie un chapitre. Est-ce que c'est possible de le lire pour dans quelques jours? Parce qu'il faut l'envoyer à la correction. Ils ont été vraiment, c'est des personnes qui sont extrêmement compétentes puis extrêmement fiables puis qui. Peut-être qu'ils lisent très vite aussi, donc je les remercie pour leur patience aussi, parce que souvent c'était envoyé à la dernière minute pour qu'on puisse par la suite faire la révision linguistique, puis par la suite envoyer donc au graphisme. Donc il y avait toute comme une séquence qu'on voulait suivre, parce que on l'a fait quand même très rapidement, là, cet ouvrage-là, il faut se le dire. Parce qu'on avait cette contrainte de temps-là aussi, hein, qui est hyper à tout organisme communautaire. Donc, il y a ça, tu sais, fait que ils ont été vraiment patients. Puis Mireille Véronneau aussi à la révision linguistique a fait un super travail aussi. Donc, c'est très rapide aussi là, dans la correction. Donc, c'était vraiment un plaisir de travailler avec elle aussi.
J'ai très hâte de tenir les tomes 1 et 2 de ce livre dans mes mains. Merci beaucoup, Julie Vaillancourt, et tu peux être très fière du travail accompli.
Ben merci. Merci à toi de donner l'opportunité de faire partie aussi des archives radiophoniques lesbiennes. Tu sais, quand on parle d'archives lesbiennes, il y a plein de gens que j'ai pas nommés. Puis il y a les archives lesbiennes du Québec qui sont dans le livre aussi. Il y a toi aussi. Hein, il y a toi aussi. Il y a toi avec Lesbosson, avec toutes les femmes qui ont pris justement la parole au micro avant. Donc, pour savoir où l'on va, faut savoir d'où l'on vient. Puis moi, je pense que ce livre-là s'inscrit dans cette idée-là. C'est de passer aussi peut-être aux plus jeunes générations, puis même aux autres générations qui n'ont pas connu ces mouvements-là, de regarder en arrière et de se dire waouh, mais tu sais, on est visible. Parce que avant toute chose, c'est d'hier à aujourd'hui, cet ouvrage-là, ça a comme but de donner de l'empowerment aux femmes LGBTQ+, de leur donner de l'empowerment et de dire ben oui, tu sais, on n'existe pas depuis 2, 3, 4 jours, on existe depuis longtemps. C'est juste que nos initiatives n'ont pas été mises de l'avant dans cette société patriarcale, faut-il le rappeler. Donc, finalement, on a décidé de prendre les choses en main et d'écrire notre histoire à certains points. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas exhaustive. Il manque des affaires dans ces livres-là, c'est sûr, mais c'est parce qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter.
Oui, je suis sûre que c'est assez complet quand même. Deux gros tomes de 1000 pages. Je pense que après avoir lu ça, on va avoir une bonne idée de ce qui s'est fait pour les femmes LGBTQ+.
C'est bon. Merci, Nathalie.
Plaisir. On écoute une chanson de Julie sous son nom d'auteur, compositrice, interprète, Julie Curley, comme un zèbre dans le désert.
De me rafraîchir les idées, donner à mon corps tout ce qu'il m'a demandé. Je suis un original qui se démarque, qui laisse sa trace, mais ici personne n'est là pour le constater. Sans aucune prétention, on ne peut m'ignorer, mais avec trop d'ambition, on finit tous par se faire fourrer. Dans le désert, je cherche mes repères. Il y a longtemps que mes pensées ne sont plus très claires. J'ai la raison de raisonner, mes envies, mes passions. l'éducation veulent être comblés au détriment de Freud. Freud, c'est le sort. Quand j'ai envie de partir, j'écoute mes passions. Regardez où elles m'ont mené. Est-ce que je veux m'en sortir? Comme un zèbre dans le désert, je cherche mes repères. Il y a encore que mes pensées ne sont plus très claires. Devant les yeux de Saint-Nocif, dans ma tête, une route sans fin. Devant les yeux de Saint-Nocif, dans ma tête, une route sans fin. Tandis que l'on se pêche et Adam en désire, dont je ne pourrais me passer, s'il vous plaît, quelqu'un m'aider. Voilà où tout cela m'a ramené l'originalité de ma différence, me fait mourir dans l'indifférence. Comme un zèbre dans le désert, je cherche mes repères, et il y a longtemps que mes pensées ne sont plus très claires.
Nos prochaines invitées forment un couple et font beaucoup de belles choses ensemble. Elles sont avec nous ce soir parce qu'elles sont les porte-parole de la Journée de visibilité lesbienne 2023. Vous avez sans doute vu la magnifique photo d'elles sur la page couverture du magazine Fugue d'avril. Je parle évidemment de Geneviève Labelle et de Mélodie Noël Rousseau, artistes et comédiennes, qui nous ont offert la pièce Ciseaux, qui a connu beaucoup de succès. Elles incarnent aussi les drag kings Rock Bière et Hervé Metal, en plus d'être copropriétaires du café Reine Garçon sur le plateau Mont-Royal. Bonsoir à vous deux.
Allô!
La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez en pleine répétition pour la première de la pièce de théâtre Ciseaux que vous avez montée et jouée ensemble. Toutes celles qui ont vu la pièce gardent un magnifique souvenir de leur soirée. Et là, la bonne nouvelle, c'est que la pièce continue son envol parce que vous partez en tournée.
Oui, exactement. C'est une belle surprise. On s'est fait inviter par l'Abitibi, le petit théâtre du Vieux-Noranda. On s'est fait aussi inviter par le Carrefour international de théâtre à Québec. Donc, ça, c'est deux belles invitations. On va même aller en Belgique.
Wow, ça, c'est vraiment le fun.
Ouais.
Puis avec les recherches et les rencontres que vous avez faites pour monter la pièce Ciseaux, qu'est-ce que vous pensez qui reste à améliorer par rapport à la visibilité lesbienne?
Ben, je pense que ce qui est ressorti des discussions qu'on avait avec tout le monde après le spectacle, parce que le spectacle termine par un gros party,
oui.
Il nous faut plus de lieux. Des lieux, pas nécessairement un bar, mais des lieux pour être politique ensemble, pour parler d'enjeux, pour discuter. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut réussir à mettre sur pied dans le futur.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être porte-parole de la JVL 2023? C'est rare que c'est un couple qui est porte-parole aussi.
C'est tellement un honneur, pour vrai. On s'attendait pas du tout à ça, mais on est all-in, comme on dit, dans notre rôle de porte-parole. On s'est fait faire des costumes spéciaux. Thématique U-Haul. Oh oui! Vraie fashion!
Et cette année, on rallonge la JBL et vous allez animer la soirée à partir de 19h. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la soirée?
Ben, ce sera nos drag kings, nos alter-ego Rock Bière et Hervé Metal qui vont avoir le plaisir d'animer ça puis d'offrir des prestations. On va être accompagnés par nul autre que Calamine et Tamara Weber.
Donc, ça va être juste avant le dance party, parce que cette année, il y a aussi un dance party après la JBL.
Oui. Yeah.
Donc, vous allez réchauffer la salle juste avant que les filles puissent danser pour le reste de la nuit.
Ah oui, on en a bien besoin, là, avec le beau temps qui revient aussi, là. Ouf. C'est très drôle, quand même, deux hommes qui animent la journée de la visibilité lesbienne.
Oui,
ça. Il va y avoir de la joke de Gwyn. Ça, vous pouvez en être assurés.
Génial, on a hâte de voir. Puis est-ce que vous avez d'autres événements à annoncer à part votre tournée avec Ciseaux puis la JVL le 22 avril prochain?
Le 12 août prochain, à l'Esplanade du Parc olympique, on anime le spectacle Majestix.
Oh yeah, ça revient cette année.
Oui, exact. Fait qu'on est vraiment très heureuse de refaire, de revivre cette expérience complètement galvanisante.
Super. Puis on peut aussi suivre vos prochains spectacles en visitant votre site web au www.pleurerdansdouche.com. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et au plaisir de se voir le 22 avril pour la JBL au Bain Mathieu.
Merci à toi, Nathalie.
En poursuivant en musique avec une chanson de Tamara Weber qui sera suivie d'une belle chanson de Calamine.
J'ai perdu du temps, je ne sais plus quoi dire. Pour compenser ma peur du vide, mais contre toutes les attentes, le bonheur ne m'avait pas possible. On m'accuse d'indifférence, mon âme de neuf cœurs désarrive. C'est peut-être vrai quand j'y pense, mon amour, mon arme n'est pas invincible. J'ai perdu du temps, c'est plus quoi faire. On dit que le silence est d'or, mais si tu m'aimes encore, faudrait s'enfuir. On oublie tranquillement ce qu'on voulait devenir. Héros d'une chasse au trésor, méprise-moi si j'ai tort, mais je veux vivre avant de partir. J'ai jamais pris le chemin facile. La route ne fait plus de sens. À marée haute, les cœurs se défilent. Mais peut-être que si tu chantes, mon âme sort, je dormirai tranquille. J'ai perdu du temps, je ne sais plus quoi dire. On dit que le silence est mort.
t'inquiète, c'est pas ma tasse de thé. J'suis pas samouraï, non, moi j'm'efface depuis. Au jeu de go, c'est moi qui brosse les dés. Yeah, j'suis caché sometimes, c'est ce qui se passe, bébé. J'voudrais la patience de cultiver les banzai. Non, des fois j'fly comme Speedy Gonzales. Tout est caillé, les pétales. Les deux pieds dans porte, pis ça détale. See you never drop by, say you never mag it. J'connais la ride, je sais ce que ça comporte. J'suis coincé dans fly, pis j'ai le cœur en compote. J'avais des belles fleurs, bastard, ils sont mortes. Mais j'ai pareil des bons potes, ils m'aident avec mon compost. J'vais faire attention, c'est pas mon premier rodéo. J'connais la chanson, mais je connais pas les mots. Tu sais bien que j'essayais de pas faire mon asshole. Mais j'ai pas fait exprès, t'es poigné dans mon lasso. Mais j'ai gardé mes instincts. Je veux pas faire la guerre des cowboys et des indiens. Je suis un territoire non cédé. Y'a les feuilles tombent, mais les arbres sont stédés. Des fois je suis le bétail, des fois je fonce, bébé. Si c'est la rue et vers l'or, je pense qu'ils cherchaient mon CD. Oh yeah, je fly, moi je valley boy, but geisha sometime, mais tout le temps je suis cowboy. C'est écrit sur mon CV. Je me fais un make-up, sinon je rougis. C'est moi la geisha au top du Mont Fuji. Traverser le désert, j'ai connu trop des sales postes. Remonter sur la selle, arigato, goza immense. Vanilla, calameno, kevosi, mollo. Je connais toutes les coutures de ton kimono. Les motifs et les textiles, t'aimes ça quand ça respire. J'ai pris un bol d'air de ta nature bisextile.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci à nos invités Tara Chanadi, Julie Vaillancourt, Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle. Et ne manquez pas la JBL le 22 avril prochain au Bain Mathieu. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous, on se donne rendez-vous le 1er mai à 19h. Bonne fin de soirée.
It's almost sunrise. My buzz ain't gone yet. The sky's just turning blue. I'm not through with you. You're not through with me too. So what are we gonna do?
What are we gonna do?
We could sit around and just talk. Or we can skip all that and just your hips, your lips, all your secrets, your dreams.
chase your goals, baby, lose control. Won't you lose control? Why don't you come here, right on my bed? Why don't you lay here, right by my head? Why don't you take all those nasty clothes of yours? Oh, why don't you come here, right on my bed? Why don't you lay here, right by my head? Why don't you take all those nasty clothes of yours?